Bonsoir Pam.
Oui, bonsoir. Bonsoir Sabine.
Pam, je vous écoute. De quoi souhaitez-vous nous parler ?
Oui, en fait, moi, je souhaitais vous appeler parce que c'est vrai que je vous écoute depuis que vous êtes un petit peu à l'antenne.
Oui.
Et j'aime bien votre analyse. Enfin, c'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi. Moi, j'ai un petit problème. Enfin, disons que c'est notamment par rapport aux hommes que je rencontre. Je me mets systématiquement en position inférieure ou en fait, je me saborde un petit peu, quoi.
Ça vous est arrivé plusieurs fois ? Vous parlez des hommes au pluriel, vous avez l'impression que c'est un scénario récurrent ?
Oui, tout à fait, moi.
Oui.
Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, ça se passe bien. Et puis ensuite, je commence à tomber, à me mettre hyper en demande, à faire un peu ma groupie, quoi. Et je suis consciente du fait que ce soit pas attractif, quoi, vous voyez. Mais je sais pas, je fonctionne comme ça.
Et Pam, vous semblez dire que c'est pas d'emblée, dès le début de la relation. Il y a d'abord un temps pendant lequel ça s'engage, disons, normalement.
Oui, ouais, c'est vrai.
Vous pensez que... Est-ce que vous avez déjà repéré le point de bascule, c'est-à-dire quand ça commence à tourner au mode groupie, comme vous dites?
C'est assez rapide, quoi.
Oui. Dès que la relation commence à compter pour vous, par exemple?
Oui, voilà. Dès que je commence à avoir peur de... que ça s'arrête ou...
C'est ça. Dès que vous ressentez l'importance de la chose.
Ouais. Et en fait, je me dis que parfois, je constate que je me mets en mode groupie, en demande comme ça, alors que j'en ai pas spécialement envie, mais c'est juste pour faire plaisir à l'autre, alors que je sais que c'est pas. Vous voyez, je me mets en position d'infériorité.
Oui.
Alors que j'en ai même pas forcément le désir, quoi.
Oui, que c'est pas forcément votre scénario fantasmatique, on va dire ça comme ça, parce que parfois il existe des configurations dans les relations que nous aimons. Enfin, nous aimons par exemple incarner une femme enfant, nous aimons incarner. Ça, c'est des scénarios fantasmatiques qui peuvent nous apporter beaucoup de plaisir. Mais vous, c'est pas ça.
Non.
C'est pas une position que vous voulez avoir.
Non, mais je veux pas trop. Je me dis toujours que si je suis comme je suis, si je brille trop, on va dire, enfin briller dans le sens, vous voyez, si...
Oui, du rayonnement d'un être humain.
Ouais,
oui.
Voilà. Eh bien, je vais les faire fuir, ou alors je vais les vexer, ou je vais les blesser dans leur ego, ou je sais pas quoi.
Oui.
Vous voyez. Et du coup, je me brime un peu, en fait.
Oui. Vous avez l'idée, Pam, qu'un homme est un être susceptible ?
Ouais, c'est vrai.
D'où ça vous vient, cette idée ?
Eh ben, en fait, c'est vrai que ce que j'avais dit à Sarah, c'est qu'en fait, quand j'étais plus jeune, quoi, déjà, mon père, il est très susceptible.
Ah !
Ouais.
Sur quel mode ? Comment ça se manifeste, par exemple ?
Bah, il est hyper rancunier, quoi. Il est très rancunier. Il va dire, mais il y a 15 ans, ta mère, elle m'a dit ça.
Ah ben, en effet. Donc, ce qu'on dit, c'est gravé dans le marbre. Donc,
oui.
Ça a des conséquences. Ça, vous avez dû l'intégrer dans votre esprit d'enfant.
Ouais.
Qu'on peut pas parler à la légère, en fait.
Oui, voilà. Et qu'il faut surtout pas dire des choses qui pourraient être mal interprétées, quoi.
Oui, oui.
Ouais. Et il y a mon grand frère aussi, mon frère aîné, qui a 8 ans de plus que moi.
Oui.
Qui, lui, a toujours été dans le rejet avec moi, quoi, en fait, depuis très très longtemps.
Oui.
Et du coup, aujourd'hui, je me demande si le fait que je m'auto-saborde un petit peu comme ça, ça vient pas de là, quoi.
En fait, à l'arrivée, ça vous saborde peut-être, enfin, vous allez peut-être en dire un peu plus là-dessus, mais vous, à l'origine, il ne s'agit pas de vous saborder ou il ne s'agit pas d'une obscure envie d'arrêter la relation, il s'agit plutôt de l'idée d'amadouer l'autre, de ne pas l'indisposer.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Donc au départ, Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est pas une entreprise de sabordage, au contraire, vous faites tout pour
oui.
préserver
Oui.
la relation sur le mode que vous avez connu.
Oui, c'est vrai.
Alors quand est-ce que ça tourne mal et que ça tourne au sabordage, comme vous dites, dans votre relation avec les hommes?
Bah, je sais pas, c'est super. C'est un moment de bascule ou de que j'arrive pas bien à identifier en fait. Non, je pourrais pas l'identifier. C'est peut-être quand je deviens moins naturelle et du coup, ou quand je m'attache trop, parce que je sais pas.
Est-ce que, assez rapidement, quand la relation amoureuse commence, vous vous sentez angoissée?
Ouais, c'est possible, ouais, c'est vrai.
Est-ce que vous ressentez de l'angoisse?
Je suis quelqu'un d'assez anxieuse, hein, de manière générale. Hein. Je suis pas une calme.
Oui. Vous,
ouais.
Vous pensez qu'il y a un fond d'anxiété pour tout chez vous?
Ouais, c'est possible. Ouais, dans plusieurs domaines, en tout cas, oui, c'est vrai.
Oui.
Ouais.
Et dans les liens en général, au-delà du lien amoureux?
Ouais. Non, ouais, c'est vrai, j'avais pas étendu. Mais c'est vrai que en amitié aussi, je mets pas mal d'enjeux, quoi. Enfin, disons que je suis toujours un peu dans l'insécurité, ouais, c'est ça.
Oui.
Ouais, voilà, je suis toujours un petit peu dans l'insécurité. J'ai besoin que mes amis, IE, hein, je parle.
Oui.
Ouais.
Oui.
Qu'elle soit rassurante, quoi, souvent. Oui.
Qu'elle vous rassure sur quoi? Sur le fait qu'elle tienne à vous, à la stabilité?
Ouais, voilà. Ouais.
C'est que vous faites bien, que...
Oui, c'est ça.
Oui. Et ensuite, donc, vous dites que vous n'identifiez pas bien le point de bascule. Donc vous, la relation amoureuse, même si vous la souhaitez, j'imagine, ça doit être également quelque chose de douloureux pour vous, si vous avez toujours cette anxiété qui est présente. Ça doit vous empêcher d'être dans la joie, dans la légèreté.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je me souviens, par exemple, quand j'étais plus jeune, c'était un petit moment, j'avais fréquenté un garçon comme ça, qui disait des choses du genre « Ah, maintenant que je t'ai rencontré, je peux mourir » ou des trucs comme ça, vous voyez.
Donc des choses fortes.
Oui, des choses assez fortes.
Oui.
Et en fait, il m'avait quitté par SMS, quoi. Enfin, à l'époque, c'était pas les SMS, mais c'était par SMS, quoi.
Par message, quoi.
Ouais, ouais, par message, ouais.
Et elle avait duré combien de temps, cette relation-là, à peu près?
Elle avait été hyper courte, quoi. Enfin, peut-être 2 mois, quoi.
Oui. Et vous, ce souvenir, vous pensez qu'il a laissé une marque?
Ouais. Oui, et puis voilà. Ouais. Et puis j'ai l'impression, en fait, que du coup, ça se répète et tout. Ou alors que... Aussi, j'ai une impression, en fait, que ce que je ressens... en fait, par exemple, vous voyez, ce que je peux ressentir, moi, j'ai l'impression que c'est partagé. Et en vérité, ça ne l'est pas. Et du coup, je me dis, ah bon, mais alors finalement, c'est pas partagé. Donc finalement, où est la bonne lecture de la situation, quoi?
Est-ce que c'est juste de dire que ce qui vous inquiète, Pam, c'est que vous savez pas sur quoi vous repérez pour lire l'autre? Enfin, vous savez pas quel signe vous saisir? Est-ce que vous pensez que vous êtes un peu en train de guetter les signes en vous demandant ce que ça signifie sur la position de l'autre et que tout ça vous semble assez mystérieux?
Ouais, oui, peut-être. Je sais pas trop, quoi.
Parce que
mais
ça...
J'ai l'impression que c'est
oui,
vrai,
allez-y,
oui.
Allez-y.
Non, allez-y, vous.
C'est que, en fait, cette première rupture, enfin, je ne sais pas si c'était la première, mais cette rupture de jeunesse vous a semblé énigmatique. Parce que cet homme vous a dit des choses très fortes, un peu sur le mode voir Venise et mourir.
Oui.
Voilà. Donc maintenant, j'ai fait la rencontre de ma vie et ma vie s'est accomplie, donc quelque chose d'extrême, pour ensuite vous quitter. Donc ça, c'est resté énigmatique pour vous.
Ouais, c'est vrai.
Vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme pour que ça marche comme ça?
Ouais. Et l'autre fois, vous savez, vous disiez à une autre auditrice, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, elle avait pensé que du coup, c'était peut-être parce que ça ne s'était pas bien passé sexuellement et tout ça, et que du coup, elle s'est demandé. Ben, moi, je me suis demandé longtemps si c'était ça aussi. Je me suis reconnue dans cette interprétation-là, quoi, parce que c'est vrai que je m'étais demandé ça. Je me suis dit peut-être que c'est là où ça s'est pas bien passé, du coup...
Vous savez, ça c'est une caractéristique de l'esprit humain. L'esprit humain ne supporte pas l'énigme, parce que l'énigme c'est le vide de sens. Donc en général, on est mieux avec une explication, même négative, même dévalorisante pour nous, que face à l'énigme, c'est-à-dire pas d'explication du tout. Donc c'est vrai que c'est assez féminin, quand on ne sait pas, de chercher une explication de notre côté, sur le mode « je n'ai pas su le satisfaire sexuellement, je n'ai pas su être à la hauteur ». Voilà, au moins ça fournit une explication. Paradoxalement, on a l'impression que c'est une calamité parce qu'on en souffre beaucoup. Mais pour l'esprit humain, c'est moins douloureux d'avoir une explication que pas d'explication du tout, même une explication négative. Mais parce que ne pas savoir du tout, ça rend l'autre complètement étrange et ça fait qu'on hésite à s'aventurer sur les terres du lien.
Oui, c'est vrai, oui.
Et ensuite, Pam, donc les autres relations, quand vous dites qu'il y avait une certaine répétition, est-ce que ça s'est engagé sur le même mode, assez passionné au début, pour rompre brutalement, ou c'était un autre type de scénario ?
Non, c'est toujours un petit peu le même scénario. C'est-à-dire qu'au début, ça s'enflamme assez vite. Enfin, disons qu'il y a... quelque chose qui a l'air de voilà une complicité qui naît, qui match et tout ça. Et puis assez rapidement, il y a l'autre, enfin du coup l'homme là en l'occurrence, se détourne finalement se détourne de manière, de manière assez surprenante, quoi, sans réelle raison, quoi. Un peu sur le même mode que cette première rupture, effectivement, énigmatique. C'est-à-dire, il y a une prise de distance tout d'un coup qui est pas très lisible, quoi, pour moi. Voilà.
Et à chaque fois, vous n'avez pas eu de signe avant-coureur, à chaque fois, ça vous laisse perplexe.
Ouais.
Et vous pensez que c'est vous qui avez causé ça par votre position d'infériorité. Donc vous en êtes arrivé à conclure que c'était du fait de votre peur.
Voilà, j'en arrive à une conclusion qui est assez négative pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, mais c'est que finalement, peut-être que j'ai peur que ça se reproduise, et ben j'en fais trop ou pas assez, vous voyez, mais je suis plus dans un juste milieu.
Oui.
Je suis un petit peu en panique, en fait. Ouais.
Je comprends. En fait, Pam, à l'état naturel, vous plaisez beaucoup aux hommes, manifestement, puisque vous dites que tous ceux que vous rencontrez, ils tombent, on peut dire comme ça, ils tombent amoureux de vous, ils sont assez enflammés. Donc, à l'état naturel, vous leur plaisez beaucoup ?
Bah, ça va un peu, quoi, oui. Ça va, ouais.
Oui. Donc ça, c'est peut-être de nature à vous rassurer, à vous donner un premier point d'appui. Parce que vous semblez pas avoir de difficultés, alors à plaire, à séduire, je sais pas, mais en tout cas, dans ce que vous dites là, quand un homme entre en relation avec vous, très vite, il est enflammé, comme vous dites, il est impliqué.
Oui.
Et il vous déclare des sentiments, tout au moins des émotions. Donc ça, d'évidence, vous avez un point de contact avec le masculin, enfin, vous plaisez aux hommes, la version de femme que vous incarnez, c'est leur plaît.
Oui, mais après, oui, c'est vrai, mais du coup, ce qui m'angoisse encore plus, c'est pas tellement sur le long terme. En fait.
Oui, mais peut-être, Alors, s'il n'y a pas d'autre explication que chaque fois vous êtes face à l'énigme, peut-être que justement, à partir du moment où vous perdez ce naturel et que vous entrez dans une posture telle que vous l'avez connue dans votre enfance, peut-être qu'ils ne vous reconnaissent pas. Peut-être qu'ils ne reconnaissent pas la jeune femme dont ils sont tombés amoureux.
Ah oui.
Supposons qu'ils aient été séduits par... par votre naturel, peut-être par votre vivacité, peut-être par vos qualités propres. Et ensuite, votre peur de déplaire à l'autre vous amène à inhiber ses qualités. Donc peut-être que lui, l'homme, il ne vous reconnaît plus, il ne retrouve plus celle dont il est tombé amoureux.
Oui, c'est vrai, oui.
Donc la question, ouais. Pour vous, c'est comment pouvez-vous rester dans ce naturel, déjà en lui faisant confiance, parce que d'évidence, les débuts de relation se passent bien.
Oui.
Donc au naturel, tout va bien.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ce serait plus simple en plus pour tout le monde.
Mais bien sûr, pour vous aussi, ça vous donnerait un peu plus de légèreté, ça vous permettrait de profiter de la relation. Alors, vous voulez bien en dire un peu plus de ce qui s'est passé avec votre père ?
Oui, alors avec
entre
mon
vous
père,
et votre père.
Mon père et mon frère, en fait.
Oui.
Ouais. Si vous voulez, mon frère, il a toujours été dans le rejet comme ça. Et du coup, moi, je me disais, mais votre interprétation elle est sans doute bien meilleure que la mienne.
Pas sûr. C'est vous qui savez pour vous-même, pas moi. Je fais des hypothèses avec vous, mais le savoir sur votre être, c'est vous qui l'avez.
Mais en fait, oui, voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est à cause de lui, en fait, que j'arrive pas à avoir une vraie relation avec quelqu'un d'autre. Enfin, je me suis dit ça récemment, d'ailleurs, en me disant finalement, à cause de mon frère plus que de mon père, mais peut-être que mon père a plus d'importance, je ne sais pas. Mais vous voyez,
peut-être
le fait d'être toujours...
Avez... Oui, ouais. Allez-y.
Le fait d'être toujours un petit peu repoussé comme ça, justement, ça m'inhibe, en fait.
Oui. Alors,
ça provoque chez moi un repli, quoi.
Je pense que vous avez raison dans votre interprétation, parce que quand on est mal accueilli par l'autre, c'est sûr que c'est difficile d'avoir un élan vers lui.
Ouais.
Donc peut-être que votre frère vous présente une image assez... assez redoutable ou rebutante de l'homme. C'est quelqu'un qui peut vous rejeter, vous blesser.
Mmh.
Donc vous pouvez faire attention à ce que rien ne dépasse, comme on dit, pour ne pas attirer de ce type de foudre.
Mmh.
Mais quand même, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose du côté de votre père, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il était très susceptible et que chaque phrase pouvait avoir de lourdes conséquences longtemps. Vous savez, le père, c'est le premier homme de notre vie. Peut-être il y a quelque chose. Quelle relation aviez-vous, vous, avec votre père, la petite fille que vous étiez? Est-ce que vous aviez accès directement à lui? Comment ça se passait avec lui?
En fait, ça se passait assez bien. Ça se passait assez bien. Mais c'est quelqu'un qui s'est pas super investi, quoi. Il s'est pas super impliqué dans notre éducation. Enfin, disons que il était parfois absent et puis tout d'un coup présent. C'était un petit peu impromptu comme ça.
Ça dépendait de quoi?
Je sais pas trop. Vous voyez. Avec mes parents, ils sont beaucoup disputés, donc peut-être de sa disponibilité finalement. Mais moi, j'ai toujours eu une bonne relation avec lui, en fait. Hein.
Oui.
Globalement, on a pas mal, on avait des discussions. Alors, enfant, je me souviens plus très bien,
il était doux. Il était doux avec vous?
Il était. Oui, il était... En tout cas, En fait, moi, c'est vrai qu'il a été un petit peu un père absent. Mais il s'est rattrapé par la suite, en fait. Vous voyez.
Déjà, il y a une chose qui a pu vous inquiéter par rapport à votre vision de l'homme, c'est le côté arbitraire de votre père, parce que vous dites que sa présence, c'était un peu quand il voulait. Alors, il avait probablement des raisons pour ça, professionnelles ou autres, mais dans votre esprit de petite fille, c'est que dès lors, l'amour, c'est pas égalitaire. L'amour, c'est quand l'homme veut. Enfin, la présence de l'homme, c'est quand lui veut.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est pas sécurisant, par exemple.
Non, il n'était pas sécurisant.
Oui. Ah oui. Et ensuite, donc, vous dites que vous aviez des conversations, donc ça, c'était plutôt sur le plan intellectuel, mais sur le plan affectif, émotionnel, comment était-il ? Il savait exprimer ses sentiments ? Il vous prenait dans ses bras ? Il vous disait des choses gentilles ?
En fait, il était plutôt, vous voyez... alors, en fait, moi, je me souviens de... Bon, j'ai peur de ce que je vais vous dire. Ça me fait... Ouais. Ça me fait peur, mais bon. Vous voyez, je me souviens de petite où il nous taquinait un peu, il nous chatouillait, des trucs comme ça.
Oui.
Moi et mes sœurs. Mmh. Et après... Et voilà, c'était ça un peu la douceur, c'était ça quoi en fait. L'affection, c'était ça quoi.
Donc c'était du jeu, il pouvait jouer avec vous, mais en revanche quelque chose de plus sentimental, ça c'était pas son registre.
Non.
Oui. Et vous, est-ce que vous arrivez à identifier comment vous vous y preniez avec votre père ? Quelle position vous avez prise ? Quelle manière de faire vous avez développée ?
Moi, en fait, oui, j'étais toujours un petit peu sur des œufs, quoi. Je marchais un petit peu sur des œufs.
Ben voilà. Oui.
Ah oui.
Ben oui. Vous marchiez sur des œufs parce que vous aviez déjà enfant une croyance qu'un homme, c'est quelqu'un d'arbitraire, qui peut être là, pas là, qui n'exprime pas ses sentiments, donc qui vous rassure pas, et qui peut être susceptible, qui peut être fâché. Donc au fond, vous avez intégré très tôt la croyance que l'homme, c'est une créature à ménager. C'est ça ?
Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc, difficile d'être naturel quand on marche sur des œufs.
Oui.
Et votre mère, comment était-elle, votre mère ? Comment elle était avec vous ? Comment elle était avec son mari susceptible ? Comment elles sont débrouillées, elles ?
Ma mère, du coup, elle était très frontale. Alors, ma mère, elle marche pas du tout sur des œufs, non ?
Oui.
C'est exactement l'inverse. On va dire qu'elle n'a pas du tout de diplomatie. Hein.
Oui.
Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils se disputaient fréquemment. Parce qu'en fait, vous voyez, moi, j'ai déjà entendu mon père lui dire ou me dire à moi, mais tu comprends, ta mère, elle me dit ça devant telle et telle personne, c'est juste inadmissible.
Oui. Oui, donc au fond, il y avait entre eux une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire, votre père avait certainement un terrain émotionnel susceptible et votre mère, elle, ne prenait aucun gant et lui donnait de bonnes raisons d'être contrariée, offensée, fâchée.
Voilà, c'est ça.
Oui. Ouais. Et vous, donc, et votre père, lui... En retour, il la rejetait, votre mère, quand il était soumis à...
Oui. Il se disputait assez fortement, oui.
Ça a dû vous impressionner, ça ?
Oui, ça m'impressionnait, oui. Ça m'impressionnait, et puis moi, j'étais toujours... En fait, très tôt, j'essayais de comprendre ce qui se passait, pourquoi il se vexait comme ça et tout.
Donc vous étiez très tournée vers votre père, Pam ?
Ouais, je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai pas beaucoup peut-être.
Est-ce que ça vous semble juste de dire que vous étiez une petite fille ou une jeune fille qui s'intéressait au masculin ? Parce que d'évidence, si vous vouliez prendre soin de ne pas contrarier votre père, d'avoir une bonne relation avec lui, si vous recherchiez sa présence quand il vous l'a donnée, vous étiez intéressée par le monde masculin. C'est ce qui fait les amoureuses en herbe, vous voyez ?
Ce qui fait les amoureux en herbe ?
Bah oui, ça fait les amoureuses en puissante. Une jeune fille qui se tourne vers son père, qui a envie d'entrer dans une bonne relation avec lui, d'entrer en relation avec le masculin, ça, c'est ce qui fait les futures amoureuses. Donc vous avez des dispositions pour la relation amoureuse, vous vous êtes intéressée au masculin, vous avez eu envie que votre père soit content de vous, qu'il soit bien avec
vous. Oui, très clairement, oui. Ça c'est sûr.
Donc il me semble déjà, Pam, qu'il y a quelque chose que vous pouvez apercevoir pour vous donner des appuis, c'est de faire de votre enfance une force, au sens où très tôt vous êtes intéressé au masculin, donc ça c'est un élan en vous, c'est ce qui fait certainement une part de votre féminité.
D'accord.
Et vous avez appris un art très utile qui est de ménager la susceptibilité masculine. Donc ça c'est très bien, parce que il n'y a pas de raison qu'une relation de couple se soit comme ce que vos parents vous ont mis sous les yeux. Ça, c'est quand même souvent au détriment du climat amoureux. Mais vous, peut-être, vous êtes allée dans un excès, au sens où vous êtes prisonnière de la croyance qu'un homme est forcément aussi susceptible que votre père, voire, si on condense les deux, voire aussi rejetant que votre frère. Or, il y a des hommes qui n'ont pas ce terrain émotionnel-là.
Oui, bien sûr, ouais. Non, c'est vrai, c'est une super analyse, parce qu'en fait, finalement, je m'étais pas rendu compte du poids, peut-être, de mon père dans ma manière de fonctionner, quoi. Ouais.
Vous voyez, je suis pas sûre que le poids le plus fort, ce soit votre frère, parce que avec votre frère, vous avez fait l'expérience du rejet. Bon, c'est désagréable, on n'a pas envie de s'y frotter, mais ça n'a rien d'insidieux, c'est clair. Voilà, il y a des hommes qui sont rugueux, c'est tout. Et lui, peut-être qu'il n'aurait jamais fait ce que faisaient vos amoureux au début d'une relation, c'est-à-dire des déclarations très amoureuses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus complexe du côté de votre père, parce que lui, il n'était pas identifié dans votre esprit comme rejetant, il était même identifié comme plutôt désirable. Vous aviez envie d'avoir une belle relation avec lui, mais à l'intérieur de ce lien, il y a des choses qui vous ont inhibé, qui vous ont obligé à vous mettre en veilleuse pour ne pas l'indisposer. Quand vous dites, vous infériorisez, c'est mettre en veilleuse pour ne pas risquer de l'indisposer. Et vous en avez retiré une certaine croyance sur les hommes que le masculin est un champ de mine potentiel et qu'on marche sur des œufs pour s'y avancer.
Oui, d'accord.
Donc peut-être d'accord, que ouais. Voilà, c'est peut-être pour prendre conscience que cette croyance est erronée, de regarder le monde des hommes autour de vous, que vous puissiez réviser cette croyance et de vous rendre compte qu'il existe des hommes susceptibles, mais pas tous, et qu'il existe des hommes, et manifestement, ceux avec qui vous avez commencé des relations, ils aimaient votre naturel.
Mais oui. Mais oui, en fait, c'est vrai que c'est dès que je commence à être un peu trop, finalement, dès que je deviens plus naturelle, en fait.
Oui.
Ouais.
Mais oui.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Exactement.
C'est vrai que du coup, ouais, moi, je vais un petit peu ménager et je vais me dire, ah non, je vais pas dire ça parce que ça va être un petit peu trop ceci, cela. Enfin, vous voyez, je suis tout le temps,
Alors, il faut dire à la petite fille qui est en vous que c'est plus votre père que vous avez face à vous.
Ouais.
C'est un homme différent qui conçoit la relation comme égale, a priori, façon dès lors qu'il est amoureux. Ça veut dire qu'il tient autant à vous que vous tenez à lui.
Et vous, d'accord.
Et vous apercevoir que vous avez affaire à un autre phénomène que le phénomène paternel.
Oui, d'accord.
En vous donnant peut-être le plaisir d'explorer, d'observer, oui. De découvrir.
D'explorer d'autres hommes.
Oui, d'autres caractères que ceux de votre père, d'autres figures.
Ouais.
Le monde du masculin est rempli de figures d'hommes très diverses. Ça peut être amusant d'explorer.
Ben oui. Mais du coup, parce que, bon, c'est vrai, parce que moi, j'extrapole, parfois, je me dis, ben voilà, les hommes, ils, en fait, c'est vrai que peut-être que je leur plais physiquement, mais que finalement, je me dis, en fait, finalement, je leur plais physiquement, mais vous voyez, j'extrapole et je me dis, mais pas pour s'engager, quoi, pas pour...
Je crois pas ça, Pam, je pense pas que ce soit que physiquement. D'abord, parce que quand c'est que physique, ça conduit pas forcément à des déclarations tendres comme celles que vous avez. Et je pense que pour un homme... Une femme, c'est un ensemble, c'est le physique, mais c'est aussi l'atmosphère qui se dégage d'elle. Et ce qui se dégage d'elle, ce sont déjà des traits de personnalité. J'entends par exemple que vous êtes une femme douce et vivante. On sent que le rire est pas loin chez vous. On sent que, oui, que vous êtes prête à rire, qu'il y a une forme de douceur, donc de féminité. Tout ça, c'est des traits de personnalité, c'est pas que du physique. Je crois que ce serait dommage de dire que c'est que le physique et qu'après, quand la personnalité apparaît, ça vous dessert. Je crois que c'est pas ça l'histoire.
D'accord.
Il y a Jacques qui nous écrit souvent de très beaux messages, qui dit « Restez naturel, ne cherchez pas à travailler votre attitude comme dans un rôle, analysez plutôt les racines de vos peurs. Belle suite. » Ça donne aussi l'idée d'un conseil. Pam, je pense que ça vaut la peine que vous essayiez de vous libérer de cette croyance, comme on l'a dit, liée à votre père. Mais si vous sentez qu'il y a des choses tellement ancrées en vous, que ce sont des nœuds, que c'est pas si simple. Je pense que là, ça peut valoir la peine de faire un passage en thérapie. Parce que la thérapie, pour moi, je suis psychanalyste, donc je sais que la psychanalyse fonctionne très bien pour mettre à jour des croyances erronées et les réexaminer, les reconfigurer. Donc si vous vous rendez compte qu'il y a trop de... Si vous arrivez à les surmonter dans la vie, par l'expérience, c'est très bien. Mais si vous sentez que ça persiste, je pense que ce serait dommage que ça vous inhibe durablement et que ça vous que ça altère votre vie de femme. Enfin, ça vous enlève de la joie.
D'accord. Oui, moi j'avais déjà fait une analyse et j'aime bien... Oui, j'avais fait une analyse par rapport à certaines angoisses que j'avais eues et tout, et ça avait bien fonctionné, mais c'était il y a un petit moment. Et en fait, c'est vrai que là, après, j'avais consulté une psychologue, mais je trouve que c'est moins efficace, en fait. Je fonctionne mieux sur le mode analytique.
Oui. Ben, dans ce cas, donc, n'hésitez pas à retourner vers l'analyse. C'est assez fréquent qu'on ait fait une première séquence et on en fait une deuxième quand quelque chose de nouveau apparaît, parce que c'est en vivant qu'on s'aperçoit de quelles sont nos peurs et on peut résoudre un premier niveau et que la vie fasse apparaître un second niveau. Donc ça, peut-être, vous le sentirez, ça pourrait être intéressant pour vous.
D'accord.
Mm-hmm. Voilà, Pam. D'accord.
Ok, merci. Voilà. J'ai l'impression de découvrir. Non, mais c'est vrai que vous m'ouvrez un petit peu les yeux sur une explication que j'avais pas du tout envisagée.
Oui, vous aviez pensé à une explication qui n'était pas fausse, mais il y avait probablement pas que ça.
Ouais.
Eh bien, Pam, je vous souhaite une très belle continuation. Ouais.
Merci beaucoup.
Et n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles si vous le souhaitez. 09 69 39 10 11.
Merci.
Bonsoir, Pam.
Bonsoir, Céline.